Chapitre 13. Exploiter, préserver et protéger l'environnement. Cours. De la maîtrise de la nature à la protection de l'environnement. Comment les sociétés humaines ont-elles pris conscience de la nécessité de protéger leur environnement? 1. Maîtriser la nature et l'environnement sous l'Ancien Régime. A. Penser la nature et l'environnement sous l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, la nature sauvage suscite volontiers la crainte. Les espaces naturels, comme les forêts et les montagnes, sont pensés comme inhospitaliers et dangereux, source de peur. Les théories médicales, inspirées de l'héritage antique, considèrent que ce qui entoure l'homme, notamment l'air et l'eau, détermine sa santé. Les sociétés ne se préoccupent pas de protéger la nature et l'environnement. Il arrive que les pouvoirs prennent des mesures destinées à préserver ou à encadrer l'usage d'une ressource, mais cela ne relève pas de considérations écologiques. Par exemple, lorsque Louis XIV promulgue l'ordonnance qui réglemente l'usage des eaux et des forêts, 1669, il cherche avant tout à fournir à la marine de guerre les ressources en bois dont elle a besoin. B. L'idée de progrès et l'asservissement de la nature. Avec les Lumières s'impose l'idée que le progrès humain suppose un asservissement de la nature. Il faut la maîtriser et l'exploiter au bénéfice des hommes pour contribuer à leur bonheur et faire reculer la misère. Au temps de l'industrialisation, les pouvoirs publics prennent des mesures destinées à faciliter l'exploitation de l'environnement. Par exemple, le décret relatif aux manufactures polluantes, pris par Napoléon Ier en 1810, vise moins à limiter les nuisances industrielles qu'à instaurer une sorte de droit à polluer, contre une compensation financière, principe du pollueur-payeur. 2. Protéger la nature et l'environnement à partir du 19e siècle. A. Sanctuariser la nature et les paysages naturels. Au début du 19e siècle, le mouvement romantique suscite un intérêt nouveau pour la nature. Alors que s'affirment la civilisation industrielle et la modernité, la nature apparaît de plus en plus comme un lieu à préserver. Ce sentiment se renforce tout au long du siècle, à mesure que les promesses de bonheur liées à l'industrialisation sont déçues. Ce sentiment de la nature conduit à la protection de certains espaces naturels remarquables. Ainsi s'affirme l'idée de patrimoine naturel. Créé aux États-Unis en 1872, Yellowstone est le parc naturel le plus ancien. Les premières mesures sont également prises pour protéger certaines espèces menacées comme le bison ou les baleines, victimes de la surchasse et qui font l'objet de conventions internationales. B. Protéger l'environnement pour protéger les hommes. Au XIXe siècle, les nuisances générées par l'industrialisation soulèvent des réactions et des protestations toujours plus nombreuses. Elles suscitent notamment le développement de l'hygiénisme, un mouvement qui milite en faveur du développement de pratiques visant à améliorer la santé, bains de mer, sport, promenades en montagne, etc. L'hygiénisme inspire des mesures de protection de l'environnement, prises souvent par les municipalités. Elle vise par exemple à améliorer la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, filtrage, création de systèmes d'adduction d'eau. Au cours du XXe siècle, les prises de conscience environnementale et écologique se font de plus en plus aiguës. Des mesures sont prises pour garantir à la fois la santé humaine et la biodiversité, comme l'interdiction par certains pays du DDT, un pesticide responsable de la disparition de nombreuses espèces animales et suspecté d'être cancérigène, 1970. 3. De la protection de l'environnement au développement durable. A. L'idée du développement durable. Au début des années 70, l'épuisement des ressources en matières premières devient une crainte largement partagée. Le détonateur est le rapport Meadows, fruit du travail de chercheurs américains, qui pointe en 1972 les dangers que la croissance économique et démographique fait peser sur la planète et sur l'humanité. Pollution, appauvrissement des sols cultivables, épuisement des ressources énergétiques. Ces réflexions débouchent progressivement sur l'idée du développement durable. Le terme apparaît en 1987 dans le rapport Brundtland, émanant de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, dépendant de l'ONU. Ce rapport préconise de concilier la croissance économique, justifiée par l'impératif du développement humain, et la nécessaire diminution des inégalités sociales et la préservation des ressources naturelles afin de ne pas léser les générations futures. B. Le développement durable, un enjeu international. Le développement durable suppose une coopération internationale. Depuis 1992, elle prend corps dans de grandes conférences, organisées régulièrement sous l'égide de l'ONU et rassemblant chefs d'État, représentants des ONG et des grandes entreprises. Visant à déterminer les priorités à respecter en vue de la réalisation du développement durable, elle porte sur des sujets très divers. La gestion durable des forêts, de l'eau, de l'énergie, le respect de la biodiversité, la protection des sols. La mise en œuvre de ces préconisations relève des États. Tous ne le font pas avec la même détermination, à l'instar des États-Unis, du Brésil ou encore de la Chine. L'action des pouvoirs publics est relayée par des entreprises et des acteurs de la société civile. Il existe ainsi, de nos jours, un grand nombre d'associations et d'ONG qui militent en faveur du développement durable. WWF, Action contre la faim.